Éric. Pas de médaille pour le Canada au cours des 24 dernières heures en Corée du Sud. Alex Harvey, de qui on attendait beaucoup parce que c'est une discipline dans laquelle, normalement, il excelle le 15 km libre. Il a dû se contenter, malheureusement, de la 7e position. Et notre collègue Jonathan Bernard, journaliste ici au FM 93, mais surtout, skieur, c'est ça?
Skieur de fond et amateur. Il se lève la nuit pour regarder les compétitions en Finlande.
Ouais, quand il y a des compétitions en Europe, là, je vais me lever des fois à 3, 4, 5 heures du matin. Et je vais vous avouer que depuis que j'ai un petit, je le fais un petit peu moins. Mais avant, je le faisais de façon assez régulière.
C'est vrai que quand on avait des enfants, on se levait plus souvent, 3-4 heures du matin.
Oui, mais je peux te dire que quand j'ai l'occasion, je vais tout de suite me recoucher parce que je sais qu'à un moment donné, ça va me rattraper dans la journée.
Un enfant dans les premières années de sa vie, ça sert à t'appauvrir et à t'empêcher de dormir. Dans les dernières aussi, d'ailleurs. Mais c'est pas grave.
Mais c'est sûr et certain, la nuit dernière, je me suis réveillé pour regarder la compétition, le 15 km en style libre. Et oui, il y avait plusieurs espoirs de médailles. Alex Harvey, il faut comprendre une chose actuellement, là. Il est au milieu de ces Olympiques parce qu'il a 6 épreuves auxquelles il doit participer parce qu'on le sait, il a déjà fait l'impasse sur une des épreuves lors de Jeux Olympiques précédents parce qu'il peut décider à un moment donné de se concentrer et dire « Moi, je vais donner le tout pour le tout aux 50 km, une distance pour laquelle il est champion du monde actuellement. »
OK.
Sauf que là, pour l'instant, il est prévu qu'il participe à 6 étapes. Il y a déjà...
Il y en a 3 de fait?
Il y a 3 de fait, dont 2 individuels. Parce que dans ce qui s'en vient, là, notamment, il va y avoir cette fin de semaine le 4 x 10 km. Donc ça, c'est une épreuve en équipe. Je vous dirais que là, le Canada n'a pas vraiment de chance de médaille. Ce serait extrêmement étonnant si jamais ils montaient sur le podium, mais ils n'ont pas vraiment de chance de ce côté-là. C'est plutôt du côté du sprint par équipe que là, il y aurait peut-être une possibilité parce qu'il va être en équipe avec Len Valjas qui a fini 7e au sprint individuel. Et il reste le 50 km.
Je trouvais très dur des collègues ce matin qui traitaient Alex Harvey de choqueux.
Ouais.
Parce que je regardais la liste des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale. Sidney Crosby est actuellement le 8e et tout le monde le prendrait dans son équipe.
Mm-hmm.
Être le 7e, c'est pas si mal.
Mais aux Olympiques, c'est vrai que qu'est-ce que l'on veut, c'est un podium. Et Alex Harvey ne s'en cache pas. Lui, ce qu'il veut, c'est une médaille. Sauf qu'il faut comprendre une chose, Alex Harvey, c'est quelqu'un qui est bon dans à peu près toutes les disciplines, mais qui n'excelle pas, sauf en certaines circonstances. On l'a pu le voir l'an dernier, notamment à Falun, lors des championnats du monde. Il a remporté l'or. Il est champion du monde en 50 km. Et il y a bien des gens qui ont dit « Ah, 32e au sprint, catastrophe. Il s'est écroulé. Il y a eu une mauvaise journée au boulot. » Il est plus bon en sprint comme il était. Parce que à cause de son âge. Ceux qui sont bons en sprint, là, ils ont autour de 22, 23, 24 ans. Plus on est jeune, plus on va performer en sprint, en ski de fond, et plus on est vieux, plus on va performer en longue distance.
Donc, contrairement à ce qu'on disait, c'est pas dans le 15 km qu'il avait ses meilleures chances, mais c'est dans le 50?
Dans le 50, le 15 km, il y avait de bonnes chances. Sauf qu'Alex Harvey est un fondeur qui aime les départs de masse. Départ de masse, c'est quand tous les skieurs vont partir ensemble. Hier, c'était un contre-la-montre. Excusez-moi, là, c'est une des épreuves que moi, je trouve les plus plate à
regarder. Ça veut dire quoi, contre la montre?
Contre la montre, là, c'est qu'ils partent
en même temps.
Avec un intervalle de 15 secondes.
OK. Donc, ils sont à 15 secondes de l'autre en avant.
Faut que tu regardes le cadran pour savoir qui est en avance.
C'est ça.
T'as aucune idée de qui mène.
Puis, il y a des temps de passage intermédiaires. Moi, personnellement, je trouve ça endormant. Hier, je suis resté réveillé, j'ai réussi, mais je préfère beaucoup les départs de masse. Et Alex Harvey est meilleur dans les départs de masse, comme au skiathlon, notamment, ceux qui ont regardé l'épreuve, là, le 2x15 km, en style libre et en style classique. Là, il y avait peut-être plus de chance, je vous dirais.
Est-ce que ça se peut que dans les départs de masse, il y ait aussi plus de stratégie?
Oui.
Tu te protèges du vent par l'autre.
Il y a ça. Alex Harvey, avec toutes ses années sur le circuit plus de la Coupe du monde, il y a beaucoup plus d'expérience. Sauf que faut comprendre une chose. Là. Il est tout seul. Ah, il est tout seul de son pays quand il y a un groupe qui se détache en avant. C'est rare qu'il va avoir un compatriote qui va être avec lui, contrairement aux Norvégiens. Les Norvégiens sont capables de faire des stratégies à 3, des fois à 4 et même à 5.
Il y a plein de pays européens qui sont plusieurs,
mais
c'est ça.
Regardez. Puis tu sais, il y a du monde qui se dit « Ah, le Canada, Alex Harvey, comment ça qu'on en fait un gros plat comme ça? » Mais regardez, là, la Norvège sont 5,2 millions. En skiathlon, ils ont raflé l'or, l'argent, le bronze. Au Canada, on est combien? 35? 36 millions?
Oui.
Puis on a Alex Harvey qui est dans le top 10.
On en a juste un.
On n'a pas une tradition.
Sauf à Saint-Féréol-les-Neiges où ils sont spéciaux, là.
Ben, c'est ça. Il commence à y avoir des jeunes de plus en plus dans les clubs. Ça se voit, là. Ça se ressent. Mais, tu sais, c'est pas comme en Norvège. En Norvège, j'ai regardé une vidéo pas plus tard qu'hier. On voit des jeunes, là. Ils ont 5 ans. Puis, on les embarque dans des autobus, on les emmène dans des centres de ski de fond, on les embarque sur des skis juste pour de l'initiation, pour qu'ils s'amusent avec des skis d'un pied. Puis après ça, si un jour plus tard, ils veulent faire ça, mais il faut comprendre que c'est un sport national là-bas. Là. Nous, c'est le hockey, eux, c'est le ski de fond.
Puis même en matière de ski, tu sais, c'est les autres disciplines, on le voit, là, c'est les bosses. Mais le ski de fond... T'sais, Pierre Harvey, on pensait que ça avait été, il avait ouvert la voie puis il allait faire des petits, mais en fait, il ne fait rien qu'un petit puis c'était son gars, t'sais, parce qu'il a pas réussi à avoir une relève puis ça a pas créé une cohorte de nouveaux skieurs, là.
Non, c'est ça. Sauf que là, je vous dirais que ça se ressent beaucoup plus avec Alex Harvey. Je suis plus dans un club, mais je suis encore les activités d'un club du côté de Lac-Beauport et on voit, là, il y a des jeunes qui s'intéressent à ça de plus en plus puis on va en voir d'autres éventuellement. Puis on voit aussi que chez les filles, il commence à y en avoir de plus en plus qui sont bonnes. Pour revenir aux performances d'Alex. Moi, la question que je me pose, bon, première des choses, c'est pas les skis, c'est plus les skis.
Non, non.
C'est plus le fartage.
Non.
Là, c'est le gars, et souvent, c'est l'entraînement. Parce que Alex Hervé est quelqu'un qui doit piquer ce que l'on appelle, là, il y a des sommets à certains moments dans la saison. Il a très bien performé autour de ski. Est-ce que ça lui nuit actuellement pour les Olympiques? Peut-être. Est-ce qu'il a piqué trop tôt? C'est possible.
Parce moi, quand je l'entends dire, j'avais plus les jambes dans le dernier kilomètre.
C'est ça.
Je dis, hey.
Moi, c'est ce qui me fait dire qu'il a peut-être piqué trop tôt. Mais en fait, ce qu'ils ont fait là, cette année, là, puis ils sont pas cachés, là, son entraîneur et lui, Louis Bouchard et lui, l'ont dit. Ils ont fait un copier-coller de l'entraînement de l'an dernier. Sauf que l'an dernier, il avait bien fait quand même autour de ski. Mais il a piqué quand? Au début mars, pour les championnats du monde. Et là, on est à la mi-février. Donc là, est-ce qu'on est comme dans une espèce de creux de vague? Peut-être. Je veux pas l'excuser. Sauf qu'il reste encore des compétitions et il y a peut-être des possibilités.
C'est parce qu'Alex Harvey, là, c'est pas la première fois qu'il nous habitue à des excuses ou des raisons pour expliquer ses échecs. On l'a souvent aussi accusé, puis à tort ou à raison, puis c'est encore l'image qui colle d'un gars qui blâme les autres pour justifier ses défaites. On se souvient encore c'était à la faute du fartage, puis c'est à la faute de son équipe.
À Vancouver, notamment.
C'est à la faute à Vancouver, à Sochi. C'est toujours la faute des autres.
Ouais.
Là, à un moment donné, cette année, il va falloir qu'ils disent qu'ils fassent son mea culpa à la fin des Jeux, s'il n'y a pas de médaille, puis qu'ils disent mea culpa.
L'avez-vous entendu jusqu'à présent? C'est une critique qui était venue beaucoup, mais beaucoup plus tôt à Sochi puis à Vancouver. Là, on l'a pas entendu dire ça, là.
Non.
Je pense qu'il n'a que lui à blâmer actuellement, et peut-être son entraîneur et son équipe autour de lui, mais je pense qu'il manque, effectivement, là, l'étincelle, il manque le petit quelque chose. Là. Et sur 15 kilomètres, là, 13 secondes du podium,
c'est rien.
Sur 15 kilomètres.
Non, mais c'est ce qui fait la différence entre pas de médaille puis de médaille.
Puis à mi-chemin, il était, ou après 10 kilomètres, il était pas à 2,6, 2,7 secondes.
Oui, c'est ça.
Il s'est effondré dans le dernier demi.
C'est
ça. Dans le dernier 5 kilomètres.
Dans le dernier 5 kilomètres, on dirait que c'est sur la fin pour finir l'épreuve qui manque le petit quelque chose que les Norvégiens ont actuellement. Là. Je peux vous le dire, là, quand on regarde Krogar, notamment, qui a gagné l'or au skiathlon puis qui a gagné l'argent cette nuit. C'est assez phénoménal. Mais le gars, il a pas performé autour de ski. Là, il a de l'air de piquer à ce moment-ci pour les Olympiques au bon moment, quand ça compte.
Le 50 km où il y a une chance d'avoir une médaille, c'est quand?
C'est du 23 au 24, donc c'est pas mal à la fin des Olympiques. Okay. Il va y avoir notamment un rassemblement du côté de Saint-Féréol-les-Neiges au centre d'entraînement Pierre Harvey. Il va y avoir des gens qui vont être là, de la famille, des proches, des amateurs de ski de fond. Donc il va y avoir un rassemblement de ce côté-là pour regarder ça. Et je vous dirais, là, ça se pourrait qu'il décide de faire l'impasse sur le sprint en équipe. Si jamais il voit que... sa seule occasion, sa seule chance de médaille, c'est peut-être le 50 km.
Il va se ménager.
Il pourrait décider de se ménager et de sauter cette épreuve-là. Quoique, ça risque d'être ses derniers Jeux olympiques, il va peut-être vouloir en profiter à fond. Et en voyant ce que Len Valjas a fait en sprint en terminant 7e, parce que ça, il n'y a personne qui en a parlé ou presque.
Quelle importance ça a, ça?
Ben, Len Valjas a fini 7e.
C'est qui, ça?
C'est un Canadien. C'est celui avec qui il va être en paire pour le sprint en équipe. En équipe de deux, en duo. Et je tiens à vous rappeler que Alex Harvey a déjà été champion du monde avec Devin Kershaw de cette épreuve. Donc, est-ce qu'il pourrait faire le même coup aux Olympiques avec un autre jeune cette fois-ci, que ce soit lui le mentor, puis que ce soit Len Valjas le jeune? Peut-être. On verra.
Merci. On comprend un peu mieux le ski de fond.
Merci, mais on va voir ça. En tout cas, on s'espère une médaille, parce que veut, veut pas, ça fait tellement d'années qu'on en parle, puis le Canada réussit pas à... Puis tu sais, ça serait le fun pour lui qu'il finisse sa carrière sur un high, parce qu'il va accrocher ses skis à la fin des Jeux, ou à peu près, mais en fin de la saison, mettons.
Il a mentionné qu'il était pour faire l'an prochain. Donc, revenir ici à Québec, parce qu'il va y avoir des épreuves qui vont avoir lieu en 2019 ici sur les plaines, et que par la suite, il devrait accrocher ses skis. Mais il devrait faire encore une autre année.
Il reste un an. Mais c'est certainement ses derniers Jeux olympiques.
Certainement.
Merci, Jonathan.
Au plaisir.
Éric, si tu me permets de revenir sur l'histoire de la plaque d'immatriculation,
j'ai
trouvé le code de sécurité routière.
Puis?
Une plaque d'immatriculation doit être libre de tout objet ou de toute matière pouvant en empêcher la lecture. Elle doit en outre, lorsqu'elle est apposée à l'arrière du véhicule, être bien éclairée. Okay?
OK?
Mais l'article suivant, c'est « Un agent de la paix peut exiger du conducteur d'un véhicule routier le nettoyage de la plaque d'immatriculation de ce véhicule lorsque l'état de saleté de cette plaque en rend la lecture difficile. » C'est pas écrit qu'on peut donner une contravention. Donc, s'il y a une...
Exiger de la nettoyer puis donner une contravention, c'est deux choses bien, bien, bien différentes.
Donc, il faut qu'il y ait eu un règlement municipal supplémentaire. Mais en vertu du Code de sécurité routière, c'est pas une contravention qui est prévue. C'est d'exiger que tu nettoies.
Puis ça, c'est quand c'est sale. Mais attends une minute, là. Dans ce cas-ci, c'est pas une saleté. C'est de la neige. La neige, est-ce que je sache, c'est pas de la saleté?
Bien, tout objet, en fait, ils disent que la plaque doit être libre de tout objet, empêchant sa lecture.
Oui, mais après ça, ils disent quoi?
Après ça, un agent de la paix peut exiger du conducteur d'un véhicule routier le nettoyage de la plaque. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est sale. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui en empêche la lecture.
Et nettoyage.
Lorsque l'état de saleté de cette plaque en rend la lecture difficile.
L'état de saleté.
Oui, mais c'est de la neige.
C'est de la saleté, de la neige.
Ben oui.
C'est sale, la neige.
Ben oui. T'as-tu déjà vu la couleur de la neige chez
nous? Moi, je trouve que la boîte est pas mal plus sale que la neige. Je sais pas quelle couleur que la neige.
C'est écrit, le conducteur doit se conformer à cette exigence. Mais c'est pas écrit qu'il y a une contravention automatique.
Non, ça, c'est les villes qui décident que si tu contreviens à cet article-là du Code de la sécurité routière, quelles sanctions t'imposent à l'automobiliste?
Ben, il faut croire qu'il y a autre chose, parce que le Code de sécurité routière, lui, il prévoit que tu dois nettoyer, mais il prévoit pas que tu vas recevoir une contravention.
Intéressant. Il y a, c'est qui, Chantal, elle nous écrit, saviez-vous que si vous sortez de reculons d'un emplacement de stationnement, qu'un imbécile s'en vient 40 km/h dans l'allée et qui rentre en collision avec vous, aux yeux des assurances, dès qu'on est en marche arrière, qu'on a une collision, on est reconnu responsable
exact.
À 100%.
Exact. C'est
même
très contradictoire.
Si c'est pas de ta faute.
C'est très contradictoire. Moi, je suis partisane du stationnement de reculons. Ils font ça à l'armée, ils font ça dans les grandes compagnies. J'ai reçu une lettre, un courriel de quelqu'un qui est à Fermont. ArcelorMittal exige que tout le monde stationne de reculons. Alors, partout où on est soucieux de la sécurité, on exige de stationner de reculons. Mais bizarrement, il y a des villes où on exige de stationner d'avant pour pouvoir lire ta plaque sans avoir à faire le tour.
Moi, c'est vrai que souvent, je me stationne à reculons.
Ben,
je trouve ça tellement plus facile de partir après.
Ben oui, c'est beaucoup
plus
sécuritaire.
À moins que je sois en retard, à moins que, tu sais, il y a des circonstances qui font que tu peux te stationner de l'autre bord.
Quand tu termines ton parcours, généralement, tes vitres sont dégivrées, bien dégagées, puis tu vas être capable de stationner. Tandis que quand tu décolles, bien souvent, tes vitres vont être embuées.
Il y a Normand qui est avocat qui nous écrit « La première partie du règlement est l'infraction possible et la deuxième partie du règlement est la discrétion donnée aux policiers selon les circonstances. Ouais, » mais là, la discrétion donnée aux policiers, je m'excuse, mais c'est parce pourquoi quand c'est un policier, il te donne une contravention puis quand c'en est un autre, il t'en donne pas. C'est ça le problème avec la discrétion.
C'est le même problème qu'avec les limites de vitesse hier. Tant que tu as de l'arbitraire policier et que les règlements ne sont pas clairs, que les objectifs ne sont pas clairs, ben là, tu te ramasses avec des histoires absurdes comme aujourd'hui.
Il y a Néo qui nous écrit « C'est absurde, ne pas voir la plaque parce qu'elle est enneigée, c'est l'équivalent de ne pas l'avoir parce que tu as une semi-remorque. On ne reçoit pas de contravention parce qu'on a une semi-remorque. Pourquoi le faudrait-il lorsque notre plaque est enneigée? C'est de plus en plus ridicule. Il semblerait que Robert Giffard ait laissé aller trop de gens avec des problèmes de santé mentale. Il y en a peut-être un qui s'est échappé pour donner des tickets cette nuit. C'est quasiment ça qu'on pense, effectivement. Merci beaucoup de nous écrire. Continuez à le faire. studio@fm93.com. En attendant, on va à la pause. Au retour, on vous parle du McDo qui veut, croyez-le ou non, changer le joyeux festin. Du